Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, mom, I am a rich man.
Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que vous nous croyez ?
Tout le monde est lesbienne, Marina.
D'accord, tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne ?
Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça.
La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Syllab pour l'émission Le Retour de Vénus, mais pas que, car suite à notre dernière émission sur les masculinités, Cess nous a proposé de faire un petit crossover d'émission avec J'irai cracher sur vos ondes, et nous sommes ravis d'aborder aujourd'hui l'ouvrage d'Alistair Oudéyer intitulé « Les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres ?». Pour en parler, j'ai à mes côtés Cess et Clara. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est rigolo de revenir le mercredi à 19h parce que c'est un créneau qu'a occupé J'irai cracher il y a plusieurs années de ça. Donc oui, en fait, on a demandé en fait à l'édition Double Ponctuation qui édite du coup l'essai d'Alistair Oudéyer, c'était possible de recevoir un petit service presse parce que moi personnellement, ça fait longtemps que je suis le travail d'Alistair Oudéyer en tant qu'auteur, mais pas que. Et quand j'ai vu cet intitulé-là, je me suis dit « Ah, oh, faut vraiment trop mettre de la lumière sur cet ouvrage ». Et à côté de ça, on se disait « Ah, ça serait bien de faire une émission avec Le Retour de Vénus ». Et je me suis dit « Mais en fait, j'ai du lait, de la farine, faisons des crêpes ». Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc on a chacune préparé des petits trucs. Est-ce que vous voulez qu'on révèle un petit peu ce dont on va parler ou on suit juste le fil de l'eau
Moi, je peux un peu dire que ça parlera d'un petit spectacle que j'ai vu à Rennes dans le cadre de Rennes au pluriel, et qui est un spectacle tourné vers les masculinités noires et l'intime.
Moi, ça va plutôt être une chronique contextualisation pour qu'on puisse toutes et tous comprendre ce dont on va parler aujourd'hui.
Et moi, je vais me concentrer sur l'essai pour vous parler un petit peu de comment il est arrivé dans les librairies. Et un petit peu faire une ouverture pour parler de Légion, parce qu'on n'en parle pas assez, ça non plus.
Et ça tombe bien parce que nous, on ne connaît pas Légion, donc on attend avec impatience que tu nous en parles.
Alors bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez pour ceux qui nous suivent en podcast. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on vous présente une émission spéciale. Alors d'après le Larousse, spécial, du latin spécialis, a plusieurs définitions. Le mot désigne, je cite, « ce qui est particulier à une certaine catégorie destinée à une certaine fin » ou « qui présente un caractère exceptionnel, répond à des circonstances extraordinaires » ou encore « huître creuse ayant subi un affinage de plusieurs mois en clair, visant à lui donner une grande qualité nutritive et gustative ». Ah non mince, pardon, ça n'a rien à voir avec le sujet. Alors, pour le dictionnaire, spécial, ça qualifie aussi « ce qui n'est pas commun, ce qui s'écarte de la norme ou sort de l'ordinaire ». Ah voilà, ça nous parle un peu plus ce soir. Une émission qui n'est pas commune et qui sort de l'ordinaire, puisque ce soir vous entendez les chroniques heureuses du retour de Vénus et de J'irai cracher sur vos ondes dans une seule et même émission. Quoi, un crossover aussi palpitant, mes deux émissions préférées enfin réunies, incroyable. Donc ce soir, émission spéciale par son format, par les talentueuses personnes autour des micros, mais aussi par sa thématique, puisque ce soir on va vous parler des masculinités. Pour commencer l'émission, reposons un peu le contexte. On a la chance de recevoir un exemplaire de l'ouvrage « Les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres ?» d'Alistair Oudéyer, paru en 2025 aux éditions Double Ponctuation. Cette maison d'édition, dont les principaux enjeux sont d'éviter autant que possible la surproduction de livres et de veiller à l'inclusivité. Elle publie des livres autour de 5 grands thèmes principaux qui sont, dans les grandes lignes, le genre, le féminisme, la lutte antidiscrimination, l'urgence environnementale, la condition animale, l'altermondialisme, anticolonialisme et les peuples autochtones, la biodiversité ou encore la musique, les arts populaires et le gaming. Pardon. Oh là là, mais où va cette chronique ? Est-ce qu'elle va nous lancer des définitions jusqu'à la fin ? Oui, c'est un peu l'idée. Alors peut-être forme de déformation professionnelle, mais il me semble essentiel pour comprendre un propos de s'assurer que tout le monde soit au même niveau d'information pour que tout le monde saisisse le contexte. Alors chers auditeurs et auditrices, restez avec moi encore un court instant, on va faire bref. Et pour celles et ceux qui auraient déjà tout compris, prenez le temps de vous installer confortablement en attendant la suite, parce que juste après moi, Cess et Janice ont d'excellentes chroniques à vous proposer. Alors, j'en étais où ? Ah oui, le contexte. Je vais revenir rapidement pour vous sur quelques notions qui seront évoquées dans la suite de l'émission. Et je ne vous cache pas que ces quelques définitions m'ont d'abord été utiles à moi pour comprendre exactement de quoi il s'agissait en lisant les livres d'Alistair ou d'Ayer. Un petit rappel de temps en temps ne fait pas de mal. Tout d'abord, la notion de genre. Si vous êtes de fidèles auditeuristes du Retour de Vénus ou de J'irai cracher sur vos ondes, vous l'avez déjà entendu. Quand on pense au genre, on a bien souvent envie d'évoquer Judith Butler, cette célèbre philosophe américaine qui a publié en 1990 « Troubles dans le genre » dans lequel elle le définit. Dans son livre, elle revient sur les concepts d'homme, de femme, en introduisant une distinction entre la définition biologique du sexe et le genre, autrement dit la construction sociale des différences entre hommes et femmes. Pour Judith Butler et les sociologues contemporains et contemporaines, le genre est socialement construit. Si on résume, le genre c'est le sexe social des individus. Sa fameuse formulation de performance du genre donne à le voir comme un rôle que l'on joue sur le grand théâtre des relations sociales et qui laisse entendre qu'on peut performer un genre, donc jouer le rôle d'un genre en particulier, plutôt que de subir une nature immuable. Donc même si c'est assez binaire dans la définition de Judith Butler, on comprend l'essentiel. Dans la suite de l'émission, vous allez aussi entendre parler de transmisogynie. Le terme a été inventé par l'écrivaine, musicienne, militante trans, féministe et biologiste, rien que ça, Julia Serrano. On retrouve ce terme et sa définition dans son livre « Weeping Girl » paru en 2007, qui se présente comme, je cite, « un texte fondamental pour toute personne souhaitant comprendre les politiques et la culture transgenre aux États-Unis ». Traduction approximative du texte anglais que j'ai pu lire. Le terme de transmisogynie décrit donc les discriminations à la fois transphobes et misogynes que peuvent subir des personnes transféminines notamment. Tout ça, ça s'inscrit bien sûr dans un système patriarcal. Autrement dit, pour le Larousse, le patriarcat est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Face à ça, le féminisme, c'est un mouvement politique qui, dans ce contexte social particulier, vise à lutter pour l'obtention d'une égalité entre les hommes et les femmes dans la société. Au-delà de la dualité des genres, c'est l'égalité entre tous les individus qui est recherchée, et non, pour les derniers du fond de la classe qui n'ont écouté que la moitié de ce qu'on vous dit sur l'antenne de Syllabes depuis plusieurs saisons, le féminisme ce n'est pas contre les hommes. Enfin, peut-être contre ceux qui pensent encore que les féministes sont des hystériques qui veulent prendre le dessus sur des hommes dans la société, mais ça, ça n'engage que moi. Enfin, comment est-ce qu'on peut en parler du patriarcat et du féminisme sans parler de l'essentialisme ? Je m'arrêterai sur cette définition, mais pour faire court, l'essentialisme c'est un courant de pensée selon lequel l'essence de chaque être serait plus importante que ses choix, ses actions, son entourage, bref, tout ce qui pourrait le définir par la suite. Vous voyez sûrement où je veux en venir, mais en ce sens, l'essentialisme c'est l'idée selon laquelle les individus auraient des caractères innés, donc obtenus à la naissance, une sorte de nature profonde liée à des caractéristiques biologiques telles que, ici, le sexe biologique, et qu'on ne pourrait rien y faire. Cette façon de penser donne une explication biologique au comportement en disant, par exemple, que les femmes sont douces et les hommes sont violents par nature. À chaque fois que cette phrase est prononcée, un ou une sociologue meurt quelque part dans le monde, sachez-le. Mais Clara, si on n'est pas homme ou femme par nature, comment est-ce qu'on le devient ? Alors oui, finalement, tout ça c'est bien, mais c'est quoi la ou plutôt les masculinités ? Qu'est-ce que c'est être un homme ? Parce que se demander, comme le fait Alistair ou Dayer, si les hommes trans sont des salauds comme les autres, au-delà de se poser la question de ce qu'est être un homme trans, c'est en fait réfléchir à la question de ce que c'est qu'être un homme tout court. Être un homme, c'est certes parfois un sexe biologique, mais c'est aussi une socialisation particulière, autrement dit un processus d'apprentissage et d'intériorisation de normes, valeurs, comportements spécifiques, mais aussi plus largement une position donnée dans la société. En fait, être un homme, c'est un costume qu'on endosse et il existe une infinité de costumes en fonction de la pièce dans laquelle on joue. Alors, est-ce qu'on est homme ou est-ce qu'on le devient ?
Vous avez une heure. Mais d'ailleurs, vous en a commencé cette émission en parlant des masculinités. Je pense qu'il n'y a pas juste devenir un homme. Enfin, pour le coup, c'est pluriel. En préparant cette émission, je regardais une vidéo que Alistair Oudeyer a fait, enfin, dans laquelle il a participé, qui était sur la chaîne de Tipui. Donc, c'est une chaîne qui est tenue par Yuffie, qui est une transféministe qui crée du contenu de vulgarisation sur les luttes queer et qui parle de choses hyper intéressantes. Je vous encourage à découvrir ça. Et cette vidéo s'intéressait sur le cispassing. Donc, le passing tout court, c'est le fait de pouvoir passer pour le genre que l'on souhaite performer, pour lequel on souhaite être reconnu. Et le cispassing, c'est quand, en plus de ça, on est perçu comme étant dans son genre assigné. Et tout au long de cette conversation, Alistair parlait du fait qu'en fait, bah, il n'y a pas identité femme et identité homme, parce que, bah, par exemple, lui parlait du fait qu'il bah, y avait la femme qui est la daronne, il y a la femme qui est la jeune fille, il y a la femme, etc. En fait, les positions sociales qu'on occupe dans la société sont loin d'être structurées uniquement sous le prisme du genre. Et lui-même parlait de son vécu en disant que le fait que bah, lui, actuellement, il passait pour un jeune petit garçon. Mais que dès lors qu'il sortait ses outils de personnes handicapées, donc ça pouvait être son fauteuil roulant ou ses déambulateurs, bah là, les gens allaient plus le genrer au féminin. Alors qu'on était genre dans la même semaine. Parce que, en fait, le fait d'être dans une position de vulnérabilité, bah forcément, en tout cas, la lecture qu'il en avait, c'est que les gens reliaient cet aspect de vulnérabilité à une condition féminine, en fait.
Ouais, c'est ce que je disais par rapport à l'essentialisme, c'est cette idée un peu intériorisée des gens qu'une femme ou un homme, si on reste sur un cadre très binaire, ont des caractéristiques, et donc dès lors que quelqu'un a cette caractéristique, il est forcément ramené à cette case-là.
C'est ça.
Et en parlant de cases, est-ce qu'on n'écouterait pas tout de suite
une chanson qui bouscule les cases?
Exactement. Très subversif. Tout de suite, Sans contrefaçon, de Mylène Farmer.
D'écouter Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Vous êtes sur Syllab et vous écoutez Le Retour de Vénus featuring Jerry Crochet sur vos ondes. Donc moi c'est Cesse, d'habitude j'officie le lundi soir et là exceptionnellement je suis sortie de ma grotte un mercredi pour vous parler des hommes trans, sont-ils des salauds comme les autres? Un essai d'Alistair Oudeyer publié depuis peu chez Double Ponctuation. Le sous-titre, Transmasculinité, féminisme et patriarcat, explicite les enjeux que l'auteur souhaite explorer en nous posant cette question un peu provocatrice. Le titre prend le slogan féministe « Men are trash », « Les hommes sont des ordures », et le livre va venir parler un peu des limites ou alors plutôt des débordements que peuvent rencontrer celles et ceux qui en font une ligne politique de ce slogan pour discuter de la place des hommes trans dans le féminisme. Mais avant de parler de cet essai plus en profondeur, parlons un peu de moi, un sujet que je maîtrise un tout petit peu mieux. Ça fait pas beaucoup de temps que je me remets à lire des livres en entier, parce que je suis encore en train de me remettre d'un burn-out consécutif à mon passage en prépa littéraire il y a maintenant une dizaine d'années de cela. Je suis devenue un rat de bibliothèque dont les livres tombaient littéralement des mains. Alors, pour pas non plus me ratatiner cognitivement parlant, je suis allée me réfugier sur YouTube, où j'ai consommé beaucoup de vidéos de vulgarisation pour continuer à apprendre des trucs. Et c'est ainsi que j'ai poncé le contenu de la chaîne H Paradoxai. Voici quelques titres de vidéos publiées entre 2016 et 2025 pour vous donner un petit aperçu de la ligne éditoriale.
Un comédien transgenre ? Questionnement et parcours d'un mec trans dans le théâtre.
DIY de printemps, 6 manières de faire des bébés sans hétéro. HPI, zèbre, surdoué, vrai diag ou charlatanisme.
Vlog à l'arrache, je teins ma barbe, mec trans pré-T.
Le modèle social du handicap expliqué par Naruto.
5 conseils pour s'organiser avec un TDAH.
Choisis son fauteuil roulant, transfert.
Transmanar trash, transmasculinité, féminisme et patriarcat. Tiens tiens, ça ne vous dit rien ? Et oui, cette dernière vidéo, publiée le 14 juillet 2024, est écrite et réalisée par nul autre qu'Alistair Oudeye, tenancier de cette chaîne YouTube. En plus d'être auteur, il est vidéaste et consultant vulgarisateur handicap et enjeux queer, si je me fie à son CV. Mais il est également cripplepunk, punk infirme, biohacker, Naruto nerd et transpédale, si je me fie à la description de sa chaîne YouTube. Ce que j'ai apprécié dans le travail d'Alistair Oudeye sur sa chaîne YouTube, c'est qu'il a une grande capacité à centraliser des informations et à les synthétiser pour les mettre à disposition d'autrui. Je pense notamment à son format concernant la vulgarisation des démarches MDPH qui rentre complètement dans cette démarche de « je vous donne des outils et des ressources ». Cette démarche, elle se joue également dans son travail d'auteur quand il auto-édite en 2021 « Mieux comprendre l'autisme, le petit guide pour les frères, sœurs, amis et camarades de classe de personnes autistes ». Mais avec ces dernières vidéos, qui se font moins fréquentes mais de plus en plus conséquentes, l'approche se fait un peu moins didactique pour emprunter la voie de l'essai. Pour rappel, il faut comprendre l'essai comme une œuvre de réflexion, ramenant à l'étymologie latine du mot exagium, juger, examiner, peser. Pour reprendre les mots d'Anne Comartin, que j'ai découvert aujourd'hui même sur Wikipédia, grande théoricienne littéraire québécoise, on n'en doute pas, l'essai offre la possibilité aussi d'orienter le monde en permettant à l'écrivain de s'y trouver au plus près, en le définissant et en l'expliquant, aussi bien que dans la distance de la méditation, en proposant des alternatives. Et ainsi, on en revient à Transmanar Trash, où les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres ? L'essai vidéo du 14 juillet d'Alistair rebondit sur une autre vidéo, Transmanar Trash, les hommes trans sont-ils des ordures comme les autres, publié le 2 mars 2024 sur la chaîne de Les Vidéos de Léo. Petit extrait.
Ouais, je t'écoute, t'inquiète.
Ok. Enfin bref, de toute façon, c'est toujours pareil. 6 semaines à retrache.
Ah non, par contre, non. Men à retrache. C'est important. Men à retrache.
Pourquoi ?
Parce que 6 semaines à retrache, c'est un slogan qui est à la fois transphobe et misogyne.
Mais, ok, pourquoi ?
Parce que ça met les hommes trans dans la même catégorie que les femmes, et les femmes dans la catégorie des saintes.
Mais comment ça marche ?
Parce que c'est comme ça, voilà, je sais pas, enfin si je sais, mais...
Tu veux pas m'expliquer, enfin je comprends pas.
Telle est l'introduction mise en scène de la vidéo de Léo, qui nous explique en un peu moins de 20 minutes que les hommes trans doivent être inclus dans Men Are Trash, parce que les hommes trans, par leur transition, viennent à occuper une place d'hommes dans leur quotidien et dans la société. Ils sont traités comme des hommes, vivent comme des hommes et perçoivent le monde comme des hommes. Il est également question de l'impasse que représente l'essentialisation des violences sexistes et misogynes. Ce n'est pas le sexe assigné à notre naissance qui nous prédispose à les commettre. Première petite citation.
La violence est un choix que l'on offre ou décourage plus ou moins chaque personne à faire suivant sa place dans la société.
Alistair part de cette vidéo de Léo, le rejoignant sur cette idée que les hommes trans sont des hommes et que les hommes trans ne sont pas exempts de misogynie. Mais en 53 minutes de vidéo, il apporte pas mal d'autres choses, plusieurs points de nuance, et notamment celui-ci.
Quand je dis que je suis d'accord avec la vidéo de Léo, c'est que je suis d'accord avec l'idée que si on considère que Men Are Trash est une idée pertinente, alors les hommes trans doivent être inclus dedans parce que ce sont des hommes avec des vies d'hommes et des comportements d'hommes. Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait que Men Are Trash est une idée pertinente. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le fait que cette violence masculine-là n'est pas intrinsèque aux hommes. Elle vient de la place des hommes dans la société, qui leur donne l'opportunité et les raisons d'être violents, ce qu'ils peuvent choisir de faire plus ou moins. Et Men Are Trash dit exactement l'inverse de ça. Men Are Trash, si on le prend juste tel quel, c'est un propos essentialiste.
Autre éclairage qu'apporte la vidéo d'Alistair, c'est qu'il propose de réfléchir à pourquoi une partie des hommes trans souscrivent à l'idée qu'ils ne devraient pas être inclus dans Men Are Trash. Parce que ça aussi, ça soulève de vrais enjeux. Alors je ne vais pas vous citer les 5 raisons qu'il invoque, mais je vais en revenir sur une en particulier. La dépendance des hommes trans à l'égard des espaces féministes et féminins. Pour prendre un exemple tout con, Si, en tant qu'homme trans, tu as besoin d'accéder à des espaces de protection et de militance autour de l'IVG, bah ce sont ces espaces féministes et féminins qui vont gérer ces questions-là de façon un peu exclusive. Donc si on t'en prive l'accès, c'est un petit peu galère. Je vous propose de faire une petite pause musicale parce que là, je sens que voilà, les neurones sont bien sollicités. Donc on va un petit peu reconvoquer nos corps pour se déhancher sur Disso par un groupe nantais que je vous encourage à découvrir, FT Mutant.
Fumée, elle se disperse. La zone dans sa clé est étouffée. T'es bloqué dans cette pièce dans ta tête. Impossible de se suffocation, t'es submergé. Les puissances sub sont sous les pieds. Du trouble asphyxie est déclaré. Alerte lancée, la vie captée dédoublée. Tu sens que tout sous ce coup, la gorge serrée. Cœur empalé, la tension montée. Provoque vitesse, tu paniques. Tu te sens faiblir quand tu longues inspires. Tes pas qui sont fébriles, abandonnés. C'est pas de réfléchir, mais tes pensées qui empirent te poussent à partir. This voice in my head keeps on singing on a loop. Keeps on singing. Doubts, keeps on saying about that. This voice in my mind keeps on saying on a loop. Keeps on saying give me doubts. Keeps on saying about that. Se sentir coincé comme oppressé dans cette salle blindée, cellule confinée. Se sentir coincé comme oppressé dans cette salle blindée, cellule confinée. Asphyxié, I'm so. Comme un néant qui t'entoure, tombé dans le gouffre du lapin, abonné absent. Pourtant ça t'aspire, tu souffres la solitude face à toi-même. Sans certitude, rêve d'éternel, s'extirper en altitude. Fuir ce tunnel n'est pas dans les aptitudes. If you got a ticket to free me from your shit, maybe it's it, but when I ain't use it. If you want me to live, you use it. Spire sans fin, se sentir aspiré. Inspiration impossible. This voice in my head keeps on saying on a loop. Keeps on saying give me doubts. Keeps on saying about that. This voice in my mind keeps on saying on a loop. Keeps on saying give me doubts. Keeps on saying about that. Se sentir coincé comme oppressé dans cette salle blindée, cellule confinée. Se sentir coincé comme oppressé. Cellule confinée. Asphyxié, I'm suffocating. Stuck in right here, just can't move. Asphyxié, I'm suffocating. Stuck in right here, just can't move. Stuck in right here. This voice in my head. This voice in my mind keeps on saying, keeps on saying, keeps on saying about that. Se sentir coincé, comme oppressé, dans cette salle plantée, une cellule confinée. Se sentir coincé, comme oppressé, dans cette salle plantée, une cellule confinée. Asphyxié, I'm so forgetting, stopping.
C'était Disso de FT Mutant.
On commençait là pendant que la musique hors antenne a discuté un petit peu de voilà, ces difficultés qu'on peut avoir en tant qu'homme trans. Voilà, c'est pas en fait entendable quand on a habité les espaces féministes et féminins, parce qu'en général, avant pré-transition, c'est l'un des espaces qu'on va occuper, de s'en voir jeter du jour au lendemain en fait.
Exactement, et ce que Alistair disait dans son ouvrage, c'était que ce qui manquait en réalité, c'est des lieux de transition qui ressemblent aussi aux personnes trans et qui leur permettraient de ne pas se retrouver jetés à eux-mêmes sans groupe dans lesquels ils se sentent en confiance.
D'autant qu'il me semble que ce qu'il met en avant, c'est que c'est aussi quand même une vraie dynamique anti-trans et anti-transmasculinité qui se joue là. C'est-à-dire que ça fait peser un poids sur les personnes, c'est un frein aux transitions que de se dire bah, « je peux pas devenir l'oppresseur, je peux pas me couper de mes cercles sociaux en faisant cette transition-là ». Donc c'est quand même une chose voilà, à entendre et à prendre en considération dans ces espaces qui se veulent inclusifs pour que l'inclusion puisse être travaillée de façon concrète, quoi. Eh bien, reprenons cette chronique. Donc là, j'ai beaucoup parlé de la vidéo. Parlons maintenant un petit peu de l'essai littéraire qui reprend beaucoup d'éléments, des arguments et des exemples qu'ils illustrent, mais qui vont structurer les choses de façon assez différente. Déjà, on n'est plus sur YouTube où deux créateurs réfléchissent à voix haute et se complètent l'un l'autre par vidéo et espace commentaire interposé. Le livre, lui, va fonctionner de façon autonome. Ce qui ne l'empêche pas d'être référencé et de s'inscrire dans un corpus préexistant. La vidéo de Léo figure toujours dans la liste des références citées en fin d'ouvrage. Et d'ailleurs, si l'on compare les références listées entre la description de la vidéo de 2024 et celle du livre de 2025, on voit, certes, des références communes, mais aussi des ajouts, comme la volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks, ou encore PD, un recueil dirigé par Florent Manelli. Le point de départ a changé. Il n'est plus question de compléter un avis, mais de dérouler pleinement le point de vue de l'auteur, lorsque l'on vient interroger, titiller, questionner la zone de gris derrière Ménard Trash. Laissez-moi donc vous lire le sommaire par lequel nous passerons pour explorer le sujet. Après la traditionnelle, immanquable introduction, on commence avec « Tous des salauds », puis « Les hommes trans sont des hommes, mais… » trois petits points. Troisième chapitre « Ménard Trash, vraiment ?» Ensuite « Misogyne, moi, jamais !» Le chapitre « Dépendance aux espaces féministes », ce qu'on a déjà pu parler, suivi du « traître à la cause », dont je parlais un petit peu, mine de rien, sur ce côté, voilà, frein à la transition. Ensuite, on a un chapitre sur les masculinités et marginalisation, suivi de « Et les pédales dans tout ça », après quoi nous avons une conclusion. Je ne vais pas détailler par le menu chaque sujet développé par Alistair Oudéye, déjà parce qu'il le fait très bien, donc allez acheter le livre ou demandez à votre bibliothèque de le faire pour vous. Mais je voudrais revenir sur une citation très précise située dans le chapitre « Masculinité et marginalisation ».
Nous ne sommes pas juste trans, nous sommes des hommes trans. La transphobie nous vise et nous impacte en tant qu'hommes trans, et nous ne pouvons pas séparer ces deux aspects de la même identité en prétendant qu'être un homme offre du privilège d'un côté et être trans de la discrimination de l'autre.
Et moi, quand je lis ça, je pense direct à Légion. Alors Légion, vous m'avez dit, vous connaissez pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Les X-Men et le professeur Xavier, ça vous voyez ?
Oui, oui.
Alors, dans les films, on le voit pas, mais sachez que dans les comics, Xavier, il a eu un fiston, David Haller. Alors le comics, j'ai pas lu, hein. Moi j'ai juste regardé ce que est devenu, en tout cas les deux premières saisons de l'adaptation sérielle, intitulée Légion, où on découvre David. Il est interné parce que voilà, c'est un gros taré, un sale schizophrène, donc boue, caca, hôpital psychiatrique, merci. Jusqu'à ce qu'une équipe de gens avec des gros guns et des super pouvoirs viennent le kidnapper et l'embarquer dans leur conflit. Parce que David, ce n'est pas un super taré, c'est un super mutant. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup des personnages qui gravitent autour de David, sans jamais imaginer un seul instant que les deux affirmations puissent être vraies. Et à un moment donné, dans la série, il y a cette réplique déclamée par le personnage iconique d'Aubrey Plaza, alors considéré comme l'incarnation de la folie de David.
You ever make soup? Cut up the meat, vegetables, add broth, cook it for a couple hours. You ever try to unmake soup?
You can't unmake soup. Tu ne peux pas défaire de la soupe. Dans Légion, ce qu'incarne cette réplique, c'est l'impossibilité irrémédiable de défaire David de sa folie, parce qu'elle fait partie intégrante de qui il est. David n'est pas David si David n'est pas fou. Mais si on sort cette réplique de Légion, pour la coller à la citation d'Alistair, « You can't unmake soup », c'est aussi l'impasse de penser les hommes trans exclusivement en tant que trans ou exclusivement en tant qu'homme. Un homme trans est nécessairement les deux, de façon concomitante et entremêlée. Ce qui s'applique par ailleurs à l'ensemble des facettes identitaires qui constituent la singularité des trajectoires de vie de chacun chacune. On ne peut pas plus défaire la soupe des identités transmasculines que des identités raciales, handi, neuroatypiques, socio-économiques, j'en passe et des meilleurs. Alistair poursuit cette réflexion en appelant un projet politique où l'inclusion est la condition sine qua non de l'émancipation, reprenant à son compte la pensée de Maya Angelou « None of us are free until everybody is free ». Personne n'est libre tant que tout le monde ne l'est. bon, traduction approximative. Mais si on retourne à Légion, j'ai envie d'explorer les écrits d'un autre auteur. En juillet 2022, Dandelion publie sur Medium l'article « What would Dali Harrell do, The Art of Villain ?» où il met en parallèle la trajectoire tragique de David et celle des personnes psychiatrisées. En effet, David Haller se voit jugé et condamné par les personnages qui nous sont alors présentés comme la team des gentils pour des actes qu'il va potentiellement commettre. On aurait pu envisager de cesser de l'exploiter sans réfléchir aux conséquences. On aurait pu chercher à l'aider et à l'outiller pour qu'il ne devienne pas ce que le futur semble promettre. Mais non, l'énergie, elle sera mise à le juger et à le condamner pour ce qu'il n'a pas encore fait. Dandelion écrit
« L'inéluctable fait l'essence du tragique, ainsi que de la folie. Pas tellement parce que la folie est sans sortie, mais parce que celles qui pourraient exister, on nous les refuse, au motif que nous sommes folles. Là est la fatalité. »
Plus loin, il ajoute
« Le tragique de la maladie mentale, ce qui la rend inéluctable, ce n'est peut-être pas la maladie mentale elle-même. C'est que le monde qui t'entoure a déjà décidé que c'était foutu, et à partir de là, agira en conséquence. »
Dès lors, un nouveau garde-fou se présente à nous quand vient le moment de questionner Maynard Trash. Si ce slogan est efficace pour choquer, provoquer, interpeller et démarrer une conversation, il ne peut pas être une fin en soi. Parce que faire d'autrui le vilain, c'est lui refuser d'échapper à l'inéluctable. Et parce que comme le disait Audre Lorde, « The master tools will never dismantle the master house. » Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître.
Freddie's just gonna help you out with some ideas for your guitar solo, yeah? Make it stronger.
Hello.
Hi. Hi. Listen, I like my guitar solo. I think it's strong as it is, so with all due respect. Freddie, I don't think your service.
We know you like it, Amina, but we want our audience to like it too, right?
I shan't mince my words. Lucien, our A&R guy, was a wanker of the highest order.
Chris, we need you to get Lucien out of our bums.
Look, you've just got to play the game. Let him do his tweaks.
Yeah, should we tickle his balls as well?
These are a bit more than tweaks, Clarice.
Death by a thousand cuts.
They own the rights to the album. Okay, so they can sit on it if they want to. They can not release it if they want to for years, and I've seen it happen. Yeah, these label bros, they can be vindictive. So just get your heads down, yeah? Play nice and get it done.
I am booked in for today. If you want to lay anything down, get some things off your chest.
Maybe we're just actually shit.
No, you know we're f***ing great.
But we didn't pray this morning
or even yesterday.
Maybe we're a novelty act,
the token black and brown.
Please shut up, I've had enough of you putting us down. Out here selling sex,
we're ethnic selling rage.
That ain't what the people want.
That don't make the main stage.
Glass ceiling feeling
got me feeling like a fool, stuck in the master's house
with the master's tools.
Supercalifragilisticexpialidocious.
c'était Glass Ceiling Feeling dans la série britannique merveilleuse, génialissime, punk et musulmane, Lady Part. Bon, là, ça n'est pas forcément punk et musulmane, mais ça parle de femmes punk et musulmanes. Donc,
on note toutes les recommandations de séries.
Est-ce que, avant de commencer ta chronique, Janice, tu avais un sujet sur lequel tu voulais revenir un petit peu concernant cet essai, hein.
Moi, j'ai bien aimé la partie... j'ai aimé l'ouvrage de manière générale. Après, il y a une partie, moi, qui m'a vraiment touchée, c'était « Misogyne, moi, jamais ». Et donc, en fait, c'était un peu cette question de... un homme trans a été une femme par le passé, eh bien, cette personne a connu la misogynie et donc forcément s'en souvient et ne pourra jamais être misogyne envers une autre personne. Et ce que dit Alistair dans son livre, mais aussi dans sa vidéo YouTube d'ailleurs, je crois qu'il l'introduit d'ailleurs comme ça, c'est que, en fait, même si on est devenu un adulte, eh ben, ça ne nous empêche pas peut-être de maltraiter des enfants. On n'a pas, parce qu'on a été des enfants auparavant, gardé une bonne manière de faire avec les enfants. Et donc, en fait, on n'est pas à l'abri quand on est un homme trans d'être misogyne. Pourquoi ? Parce que on est un homme. Et en fait, dire que un homme trans n'est forcément pas misogyne parce qu'elle a été une femme auparavant, c'était encore une fois essentialiser la personne. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Un argument qui complète ça, c'est, je crois que c'est pas à cet endroit-là où il en parle, mais il parle de cette binarité, enfin cette façon de binariser le conflit qui est, on est soit victime, soit auteur de violence, alors que factuellement, non, on est les deux de façon un peu permanente et continuelle. Donc il y a déjà cet élément-là, on peut pas dissocier ces deux parties-là. Et oui, effectivement, en fait, des transitions, on en effectue tous et toutes dans nos vies. C'est juste qu'elles ne sont pas forcément nommées de façon aussi frontale que les transitions d'identité, par exemple, d'identité de genre. Mais on a tous transitionné de enfant vers adulte. On a sûrement eu des transitions économiques à partir du moment où on avait un emploi, un logement autonome, etc. Et ça, ces paramètres ont changé nos conditions d'existence de façon très concrète. Et ça impacte également du coup la place qu'on va occuper dans le monde et du coup la violence qu'on va exercer pour exister dans ce monde.
Exactement, et ce qu'il dit aussi c'est que en fait pourquoi il y a de la misogynie, c'est parce que la société le permet et que il dit que quand une femme a le pouvoir d'être misogyne, en fait elle l'est également et c'est pas une caractéristique comme on l'a déjà dit innée à l'homme et que tout ça dépend en fait de la société et de tous ces composants qui sont imbriqués les uns avec les autres.
Et concernant du coup les femmes misogynes qui ont des intérêts à l'être, je pense qu'il y a une lecture qu'on devrait tous et toutes faire, je dis ça alors que je ne l'ai pas lue, mais il y a Léana Lestra qui vient de sortir du coup Les Vigilantes, où elle parle du coup des femmes d'extrême droite, et ce sont des femmes d'extrême droite souvent qui ont mobilisé des discours extrêmement misogynes, et parce qu'en fait elles ont un intérêt à le faire. Et l'autre chose qu'elle a pu mettre en avant dans les interviews, c'est aussi le côté où... au-delà d'être misogyne elle-même, c'est que la misogynie et le sexisme déployés dans les discours de leur père, elles ne les perçoivent pas comme leur étant adressées. Elles ne sont pas concernées par ces discours misogynes et sexistes, en fait, parce qu'elles estiment que voilà, c'est pas à ce type de femme-là que cela s'adresse. Donc vraiment, des choses à aller découvrir et creuser dans ces temps sombres où il nous faut lutter contre pas mal d'extrêmes montants.
Et si vous êtes plutôt vidéo YouTube que livre, il y a aussi l'interview de Léana Lestra sur Blast avec Salomé Sake que j'ai écouté, qui est vraiment très chouette à ce sujet.
Ça doit être pépite.
Et en parlant d'ouvrage, moi il y a un passage qui m'a marqué, qui explique que, et comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs Clara, en fait on ne naît pas homme, on le devient, que devenir un homme ce n'est pas un processus qui est propre aux hommes trans. L'auteur nous explique que c'est un processus que tous les hommes traversent. Et ce parcours, il est déterminé par une multitude de facteurs, comme par exemple la couleur de la peau, la classe sociale, le handicap, l'apparence physique et bien d'autres critères. Ce passage, il m'a rappelé un spectacle que j'ai vu en mai dernier, que j'ai un peu teasé tout à l'heure, dans le cadre de Rennes au pluriel, qui s'appelle « À vif, vulnérabilité et masculinité noire ». C'est le fruit d'une résidence qui mêle sciences sociales et théâtre et qui a été organisée par la Maison des Diasporas. Et en fait, pendant ce spectacle, moi j'ai été particulièrement touchée par l'expression de la vulnérabilité de ces hommes qui sont traversés par des expériences où leurs corps sont parfois fantasmés, déshumanisés, colonisés. Cette pièce, elle parle de discrimination et de violence dans le monde du travail, dans la rue,
face à la police, mais aussi dans la sphère intime. C'est un spectacle qui nous invite, selon moi, à penser les masculinités comme un groupe hétérogène qui s'exprime de multiples façons. Parce que l'unique forme de masculinité qui nous est proposée aujourd'hui, elle fait du mal aux femmes, oui, mais aussi aux hommes. D'autres masculinités sont possibles, et à nous de les inventer, de les encourager et surtout de les trouver séduisantes.
Merci pour ce coup de cœur, Janice. Juste du coup, les hommes qui étaient dans ce spectacle-là, on est sur des personnes qui étaient des acteurs ou c'est on va dire des civils hein, qui ont été pris dans ce projet et qui ont y participé avec leur approche particulière et singulière.
Alors un peu des deux. Il y a des personnes qui ont choisi de participer qui sont pas du tout qui font pas de théâtre à la base, mais je sais qu'il y avait un rappeur, il y avait quand même des comédiens des personnes civiles, on va dire. Donc en fait, c'était un parcours qui était organisé sur un temps assez long où en fait ce groupe là donc d'hommes noirs était suivi par par des sociologues mais aussi par la compagnie de théâtre et aussi par la maison des diasporas. Et donc à travers le spectacle, c'était à la fois la restitution mais c'était aussi avant la diffusion d'un petit court-métrage face caméra des personnes qui parlent un peu de leur vécu de l'expérience, mais c'était aussi des extraits de textes qui les avaient aidés à aller un petit peu explorer cette masculinité et cette vulnérabilité. Et il y avait aussi, dans ce cadre-là, la diffusion d'un film de Sikun Yakate qui s'appelle « Dans le noir, les hommes pleurent », suivi d'une conférence avec l'auteur qui a aussi écrit un livre qui s'appelle « Dans le noir, je crie » et qui parle justement de cette difficulté à exprimer sa vulnérabilité quand on est un homme noir dans un quartier populaire de Paris. Et c'est en fait toutes ces dimensions-là qui viennent se croiser. Et pourquoi est-ce que lui, ça l'a... Quelle expérience il en a et surtout quelle expérience après il a eu de sa masculinité quand il a changé de classe sociale. Il explique qu'il est un transfuge de classe, mais culturel et pas encore économique. On espère pour lui.
On est précis.
mais que quand même, il y a il a remarqué cette différence de point de vue des masculinités aussi... parmi les classes sociales et parmi les classes, les milieux culturels. Et il parle aussi du fait de l'intime, de comment son corps est vu par aussi les femmes avec qui il a eu des relations et à quel point ça pouvait le blesser parfois et l'empêcher de vraiment être qui il avait vraiment envie d'être et plutôt de répondre à ce qu'on attendait de lui qu'il soit, c'est-à-dire l'homme forcément... un petit peu violent parce qu'il a une couleur de peau non blanche et donc tous les stéréotypes qui sont collés à sa couleur de peau. Donc c'était vraiment... c'était déjà aussi un pas qui montrait que les masculinités, elles sont... La masculinité, comme on l'entend de manière quotidienne, on va dire, c'est pas inné, comme on l'a dit tout à l'heure, et que c'est traversé par plein de caractéristiques et que la couleur de peau et la classe sociale en sont des marqueurs très forts.
Justement, le lien que moi je vois entre le livre d'Alistair Oudeyer et le spectacle que tu as vu, c'est toute la question de l'intersectionnalité, où bah, pour le coup, pour les hommes trans, on peut pas dire qu'un homme trans est juste un homme trans, il y a tout un contexte derrière, il y a d'autres caractéristiques, etc., qui vont faire que la personne va subir plus ou moins de discrimination en fonction de ces choses-là.
La soupe.
Exactement, on peut pas défaire la soupe. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que pour préparer cette émission, j'ai fait quelques recherches sur une définition de la masculinité, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai pas définie dans ma chronique, parce que ça a été très compliqué. J'ai regardé plutôt du côté des sociologues et des sciences humaines, parce que bon, c'est un domaine que je connais un petit peu mieux. Et en fait, les définitions qu'on peut trouver, c'est des pages et des pages et des pages d'explications de, en fait, la masculinité, c'est tout ce qui caractérise un homme. Et on trouve rarement plus de définitions que ça. Donc je trouve ça assez intéressant de parler des masculinités, et de vraiment la pluralité de ce que ça peut contenir, en fait, et qu'il n'y a pas un type de masculinité défini, et justement toutes ces expériences de vie plurielles sont tout autant de masculinités différentes.
Et est-ce que tu dirais que du coup par rapport aux recherches que tu as faites, même si tu n'as pas forcément tout le recul dessus, mais qu'il y a une espèce d'impensé sur la définition des masculinités hein?
Bah oui, complètement, il y a beaucoup de choses sur la féminité, et d'ailleurs on parle beaucoup de la féminité et pas les féminités malheureusement, et la masculinité est aussi définie comme tout ce qui n'est pas la féminité. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce flou qui peut se retrouver aussi dans comment les hommes parlent d'eux-mêmes et de leur difficulté à se comprendre eux-mêmes. On en parlait beaucoup de comment est-ce qu'on devient un homme, en fait. et enfin, il n'y a pas tellement de recherche dessus.
Mais c'est intéressant parce que moi, il y a une question que j'aime bien poser. Il y a quelques années de ça, à Scilab, on nous demandait de remplir un petit tableur pour dire voilà, combien de personnes, hommes ou femmes, on avait interviewées, reçues, etc. dans les émissions. Et moi, je m'étais retrouvée confrontée à plusieurs problématiques où j'étais, bah, cette personne-là, je sais qu'elle n'est pas out, donc est-ce que je dis ah, bah, c'est une personne de tel genre parce que ça m'arrange pour les stats, ou est-ce que je respecte la façon dont elle veut se présenter dans l'espace public. Il y avait des personnes où juste je savais pas, j'avais pas posé la question. Et donc je me suis questionnée par rapport à ça, donc j'ai commencé à demander aux gens comment tu te définis, parce que j'ai des statistiques à remplir, donc dis-moi comment tu te positionnes vis-à-vis du genre ou d'autres éléments identitaires que tu veux revendiquer dans le temps de l'entretien. Ce qui me permettait aussi de ne pas imposer des sujets à des personnes. Ça m'est arrivé de vouloir poser des questions à des personnes et de sentir que ça concerne peut-être plus sa vie et pas forcément son travail, ou en tout cas il veut pas convoquer ce sujet-là à ce moment-là, parce qu'en fait, quand tu crées des trucs, t'as envie de parler de ce que t'as créé et pas nécessairement uniquement de toi et de ta particularité. Enfin, tu veux pas être une mode, quoi. Et du coup, c'était, j'avoue, assez satisfaisant de poser cette question-là à des hommes qui devaient, du coup, dire à voix haute « Alors, je suis un homme. » Parce qu'on sent qu'ils sont pas habitués à formuler cette phrase-là, en fait. Là où je voyais d'autres personnes qui avaient aucun problème à débiter « Alors, je suis un homme trans, PD, machin, bidule. » Tu sentais que ça, c'était de l'ordre de l'acquis, de réfléchir, de me situer dans l'espace et la société. J'ai dû le faire pour me comprendre et exister, donc pas de souci. Là où, pour d'autres, c'était un exercice plus exotique, dirons-nous.
Et tu vois, il y a un passage du livre que j'ai noté qui me fait penser à ce que tu dis, c'est que, en fait, il y a la manière, il y a comment la société nous place, mais il dit aussi la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et dont nous nous situons nous-mêmes au sein de ces représentations et de ces dynamiques est aussi structurante. C'est qu'en fait, nous aussi, on va se mettre à une certaine place et peut-être que oui, il y a certains hommes qui n'ont pas réfléchi à cette place-là qu'ils occupent.
Ouais, je voulais revenir un petit peu sur la même chose que toi, Janice, et c'est ça. J'en parlais tout à l'heure du fait que le féminisme, c'est pas juste des bonnes femmes hystériques qui veulent être au-dessus des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont ce genre de discours à l'égard des féministes, et qu'en fait, le fait de mettre les hommes à l'écart de cette lutte, et c'est un peu ce dont parle Alistair Oudéhi en conclusion à certains moments, du fait que les hommes cis sont aussi inclus dans ces difficultés-là, parce qu'ils subissent d'autres types de discrimination, etc., et qu'en fait, l'homme cis, blanc, hétéro, comme on le classe généralement, c'est considéré par certaines personnes comme la norme. Et c'est aussi pour ça que les personnes ont du mal à se définir, et qu'il y a un véritable enjeu, je pense, là-dessus, de réussir à se dire qu'en fait, la norme, c'est pas l'homme cis hétéro, et qu'il faut aussi réussir à se positionner par rapport à ça, et qu'en fait, toutes les identités des personnes qu'on a pu évoquer depuis tout à l'heure, et dont on fait partie aussi, et de plein d'autres personnes, c'est de se dire, l'homme cis hétéro, c'est blanc, bourgeois, etc., c'est le modèle, et après, les autres personnes sont des déclinaisons, et il faut qu'on réussisse à se définir par rapport à ça, au lieu de te définir en tant que tel. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à se dire qu'il faut aussi que ces personnes, les hommes, l'homme de base, comme on entend beaucoup,
se définissent. Il faut décentraliser, en fait.
Exactement.
Moi, il y a une punchline qu'il drop dans l'essai que j'aime beaucoup, qui est par rapport à la place qu'on laisse ou pas aux hommes cis gays, que bah, les hommes cis gays, en fait, ça recoupe autant Gabriel Attal que des drag queens au RSA. Et qu'a priori, bah, les enjeux ne sont pas les mêmes pour ces personnes. Donc... vraiment une phrase à retenir, je pense.
Ouais, j'ai bien aimé aussi, je me souviens. Et puisque les masculinités, elles sont multiples, moi j'avais envie de vous faire découvrir une musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Multiple, de Victor Solf. Et j'ai choisi cette musique parce que les masculinités, ça représente un spectre fait de multiples composants. Car réussir à trouver qui l'on est, malgré les injonctions de notre société, peut paraître insurmontable. Et est-ce réellement possible d'ailleurs ? Pour moi, cette musique nous invite à nous explorer.
Je me cherche dans la nuit, je me cherche dans le jour, je me cherche dans les rides de mon père. Je me cherche dans mes rires, dans le pli de mes joues, je me cherche dans les bras de ma mère. Je crois que je sais, multiple, je vois l'ombre qui me suit, multiple, la seule chose que je sais.
Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Mille visages, mille vies, mille visages. Je ne sais pas qui je suis. Je me cherche dans le nous. Je me cherche dans le doute. Je me cherche dans tes yeux et me perds. Je suis père, je suis fils. Je suis fort, je suis faible. Et je plonge dans l'ivresse. Et les rêves, et les rêves, et les rêves multiples. Je crois que je sais. Multiples. Je vois l'ombre qui me suit, multiple, la seule chose que je sais. Je ne sais pas qui je suis, multiple. Je ne sais pas qui je suis, multiple. Je ne sais pas qui je suis, mille visages, mille vies, mille visages, multiple. Je ne sais pas qui je suis. Qui je suis, multiple. Je ne sais pas qui je suis, multiple. Je ne sais pas qui je suis, mille visages, mille vies, mille visages, multiple. Je ne sais pas qui je suis, multiple. Je ne sais pas qui je suis, multiple. Je ne sais pas qui je suis, mille visages, mille vies. Mille visages multiples. Je ne sais pas qui je suis.
C'était Victor Solf et sa chanson Multiple.
Merci Janice pour cette découverte. C'est déjà la fin, c'est l'heure de se dire au revoir.
Oh non, je sais que vous êtes tous et toutes déçus, là vous êtes tristes.
Ouais, séchez vos larmes. Parce que, en tout cas, si vous voulez continuer à entendre parler de est-ce que les hommes trans sont des salauds comme les autres, je vais bientôt avoir un entretien avec l'auteur Alistair Oudeye. Donc ça sera diffusé dans J'irai cracher sur vos ondes dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à suivre le compte Insta @jcsvo pour en savoir plus.
Et un grand merci à l'équipe du Retour de Vénus et l'équipe de J'irai cracher sur vos ondes pour cette merveilleuse émission.
Ouais, merci nous quoi.
C'était un plaisir de faire cette émission ensemble.
Ouais, faut featurer plus souvent. C'est pas réservé qu'aux gens qui font de la musique finalement.
Et nous pour le Retour de Vénus, les prochaines seront sûrement des rediffusions, pas d'émissions pendant l'été, mais on se retrouve à la rentrée.
Plus grand, plus fort.
Et en attendant, n'hésitez pas à écouter les podcasts, sachant que le podcast de l'émission sera disponible sur le compte des deux émissions.
À très bientôt sur Scylab.
À bientôt, bonne soirée.
Bonne soirée.